Seigneur, merci pour ta parole et merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous voulons glorifier ton nom, nous voulons te célébrer, toi qui es le Dieu vivant, toi qui nous donnes la vie, Seigneur. Et nous voulons recevoir la vie par ta parole qui sera prêchée. Nous prions pour que tu nous transformes, que tu nous délivres, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, nous brise et qu'elle nous transforme à ton image. Merci de nous remplir de ton esprit. Merci de parler, Seigneur, que la chair puisse s'effacer et que ton esprit fasse la différence au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Nombres au chapitre 13. Nombres, chapitre 13. Nombres, à partir du chapitre 13, nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 2 et ensuite nous irons au verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Éthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Canéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui avaient été allés avec lui lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le peuple qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes, d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. » Amen. Voilà ce que dit la parole du Seigneur. Dieu a envoyé son peuple il a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte et il leur avait donné une feuille de route. Il leur a dit, je veux vous faire rentrer dans le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Et nous arrivons au chapitre 13, verset 1er. Dieu envoie maintenant, il dit à Moïse, choisis des gens qu'ils aillent explorer le pays. Et ces personnes partent, ils reviennent vers Moïse et ils donnent un discours. Ils disent à Moïse, effectivement, Dieu a dit vrai. Ce pays coule le lait et le miel, le séjour est très bon dans ce pays-là, mais il y a un problème. Il y a des géants dans ce pays-là. En quelque sorte, Dieu ne nous a pas tout dit. Dieu a caché la vérité. Il nous a dit que ce pays était bon, qu'il nous donnait ce pays, mais nous avons été surpris. Alors la question c'est, lorsque Dieu a envoyé ce peuple, ne savait-il pas qu'il y avait des géants? Dieu le savait. Dieu savait qu'il y avait des géants. Mais Dieu a parlé, il a dit tout simplement, dis au peuple qu'ils aillent voir. Il n'a pas dit qu'ils aillent combattre. Qu'ils aillent voir ce pays-là pour donner un avant-goût. Et voilà qu'ils reviennent avec un discours tout autre. En réalité, ils avaient peur. Mais pourquoi ils avaient peur? Ils avaient peur parce que ces hommes voulaient préserver leur vie. Puisque affronter les géants, c'était en quelque sorte se livrer à la mort. Parce que physiquement, ils se sont dit, mais non, logiquement, ils vont nous battre, mais c'est ce qu'ils disent. Hein. Ils disent, ce sont des gens qui battent toutes les nations. Donc, logiquement, ils se sont dit, S'il faut se battre, on est déjà perdant. Alors vaut mieux ne même pas essayer. Pourtant, lorsque Dieu a dit, Dieu n'a pas dit qu'il y avait des géants. Dieu a dit, allez tout simplement. Mais on voit la réaction d'Israël, c'est qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur, ils ont voulu préserver leur propre vie. Ils n'ont pas voulu affronter la mort. Or, qu'est-ce qu'il y avait derrière ? Il y avait le pays où coule le lait et le miel. Le thème de notre exhortation aujourd'hui, moi le premier, c'est acceptons de mourir à nous-mêmes afin de voir la gloire de Dieu. Dieu savait qu'il y avait des géants. Il le savait, il était conscient. Mais en voyant, c'était comme une proposition. Lorsque nous nous sommes convertis, nous avons fait le choix de suivre le Seigneur. Mais en suivant le Seigneur, il y a des choix que nous allons poser tous les jours de notre vie. Et cet épisode que nous lisons d'Israël et la terre de Canaan, ça symbolise, ça représente la vie chrétienne, où nous savons que nous avons en vue le ciel. Mais sur la terre, nous aurons des obstacles. Des géants que nous devrons affronter. Et pour les affronter, il faut avoir confiance en Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu. Mais il faut accepter aussi de mourir à soi-même. Parce que affronter ces géants-là, c'est devenir fou en quelque sorte. C'est devenir fou, devenir insensé. Or, Dieu veut que nous puissions mourir pour que nous puissions ensuite voir sa gloire. Mais ces hommes ont eu peur. Ils ont voulu préserver leur vie plutôt que d'affronter la mort. Or, la conversion, c'est quoi ? C'est le fait de reconnaître que j'étais perdu, je suis dans le péché, j'étais loin de Dieu, je reconnais mon état, j'accepte le Seigneur et ensuite je décide de le suivre. Mais il y a des gens qui viennent au Seigneur pour se sauver d'un problème. Ce n'est pas mauvais. Il y a des gens qui viennent au Seigneur parce qu'ils galèrent tellement, ils souffrent tellement. On te dit, bon, viens au Seigneur, Dieu va t'aider. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais le Seigneur, ce n'est pas que ça. Il y a des gens qui viennent au Seigneur parce que on lui a dit, il a vu les témoignages des gens qui lui disent, eh ben, moi je me suis converti, le Seigneur m'a transformé, maintenant c'est le bonheur à la maison, ma femme m'écoute, elle s'est convertie, c'est la paix. Alors, il y a des gens qui viennent au Seigneur avec cette logique, une logique de vouloir gagner à tout prix. Et c'était ça la logique d'Israël. Il voulait quoi, comme on dit en français, le beurre et l'argent du beurre, c'est ça qu'on dit. Il voulait tout. Il voulait que Dieu les amène comme sur un tapis rouge en terre d'Israël pour leur dire, voilà, pourtant Dieu avait fait des prodiges, Dieu a fait des miracles, ils ont vu tout cela. Alors posons-nous la question, si Dieu avait fait ça, déjà que Dieu a permis qu'il y ait des épreuves, qu'ils gagnent des victoires pour qu'ils reconnaissent que Dieu est Dieu. Mais alors si Dieu les laissait rentrer en Israël, les mains dans les poches, la fleur au fusil comme on dit, est-ce qu'ils allaient reconnaître que c'était Dieu ? Non. Alors beaucoup viennent au Seigneur avec l'objectif ou le but de gagner. Comme j'ai dit, Dieu soit béni, ce n'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions comprendre qu'on se convertit pour mourir. Ça peut choquer ce que nous disons, mais c'est la vérité. On se convertit pour mourir. C'est ça la conversion, c'est-à-dire c'est un contrat. Je reconnais que je suis pécheur, j'accepte la vie de Jésus qui est mort à la croix pour moi et je lui donne ma vie qui est sale et lui prend ma vie. On échange. C'est ça la conversion. Beaucoup viennent, ils se convertissent pour être heureux tout simplement. On m'a dit que Dieu donne si. Oui, Dieu pourvoit. Dieu donne, il est écrit qu'il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Il est écrit que Dieu pourvoit nos besoins. Il est écrit que nous ne manquerons de rien si nous croyons en l'Éternel. Il est écrit que celui qui croit en lui ne sera point confus. Il y a toutes ces promesses et la Bible dit que toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Amen. C'est une réalité. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions comprendre qu'on se convertit pour mourir. Et c'est là que le bât blesse. On se convertit pour mourir. Jésus parle à Nicodème dans Jean 3. Nous n'allons pas lire ces passages, nous allons juste les citer. Jésus parle dans Jean 3. Il dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Alors Nicodème se pose la question, il dit, mais maître, comment naître alors que je suis déjà vieux ? Est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère ? En réalité, Nicodème a compris ce que Jésus veut dire. Mais c'est tellement dur. En quelque sorte, Jésus dit à Nicodème, recommence à zéro. Or, Nicodème, ce n'était pas n'importe qui. Nicodème, ce n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un de respecté, de connu, peut-être d'apprécié même. Il est venu voir Jésus la nuit. Jésus lui dit, eh ben, tout ce que tu as appris, là, Nicodème, recommence maintenant à zéro. Ah, c'est difficile. C'est très difficile. Et Jésus dit dans Jean 3, verset 8, il dit, le vent, tu vois, Nicodème, le vent, il souffle. Tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Toi, ce que tu sais, c'est que tu entends juste le bruit. Et il dit, c'est ça, la nouvelle naissance. On est conduit maintenant par l'Esprit. Et comme je disais tout à l'heure, beaucoup viennent à Dieu pour gagner comme les enfants d'Israël. Quand il y a des épreuves, des géants, ils disent, mais non, mais Dieu ne m'a pas dit ça. Il est écrit dans la parole, il est écrit. Et là, on commence à citer tous les versets. C'est bien de citer les versets, mais Dieu a mis des épreuves pour que nous puissions exercer la foi. Dieu a mis des épreuves aussi pour que nous puissions voir notre incapacité et mourir. Comme j'ai dit tout à l'heure, affronter les géants, c'était devenir fou. C'était se dire, bon, nous, avec notre intelligence, nous ne pouvons pas arriver. Mais si Dieu a dit, alors on va aller. C'est ça, mourir à soi-même. C'est-à-dire que tu as de la force, mais tu considères que cette force-là n'est rien du tout. C'est Dieu seul qui est quelque chose. Et comme je disais, beaucoup viennent avec l'esprit de gagner. Mais malheureusement, lorsqu'on vient avec cette attitude-là, quand viendront les adversités, on s'attendait à ce que, lorsque je me convertis, que ma femme va changer, que ce sera la paix à la maison, que tout sera rose, que tout sera bien. Et finalement, on se rend compte que la réalité est beaucoup plus difficile. Et qu'est-ce qui se passe pour une personne comme ça? Eh ben, elle quitte le Seigneur, elle dit bon, voilà, donc il y a eu, comme on dit, tromperie sur la marchandise. Et donc Dieu m'a déçu, comme certains disent. Mais non, c'est parce que l'objectif n'était pas bon. C'est parce qu'on ne t'a pas tout dit. Dieu donne la vie, la véritable vie. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis venu pour donner la vie. Il parle à des hommes qui sont vivants. Mais pourtant, il dit, je suis venu donner la vie. Donc il considère que ces gens-là, qui ne le connaissent pas, ils sont morts. Et cette vie-là, on l'obtient en acceptant de perdre notre vie. Dans le monde, Sarkozy nous disait gagner, travailler plus pour gagner plus. On cherche toujours à gagner. Il y a des gens qui, lorsque ça ne va pas, dans le couple, je suivais un reportage, une personne de 70 ans. Finalement, ça ne marche pas. Comme les cougars, comme on les appelle, elle va maintenant en Afrique pour chercher, refaire sa vie. Parce que l'homme veut toujours être gagnant. Là où il y a un échec, au lieu de surmonter cela, eh ben, il va préférer la facilité. Il préfère la facilité, voilà. Il veut sa liberté, il veut être gagnant. Or, avec Dieu, on gagne lorsqu'on accepte de perdre. Amen. Avec Dieu, on gagne lorsqu'on accepte de perdre. La Bible dit dans 2 Corinthiens, ce sont les passages que nous connaissons. 5:17, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce verset-là? Une nouvelle création, ça veut dire que la conception qu'il avait autrefois, il ne l'a plus. Les intérêts qu'il avait autrefois, la façon de voir la vie autrefois, les objectifs qu'il avait, il ne les a plus parce que aujourd'hui, il est né de nouveau. Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui dirige sa vie. En quelque sorte, il devient un humain anormal selon ce monde. C'est ça la vraie conversion. Peut-être que ce sont des passages que nous connaissons, mais nous ne réalisons pas ça. Quand quelque chose est nouveau, est-ce que nous maîtrisons toujours? Je nous pose la question. Tu as un nouveau logiciel sur ton ordinateur. Est-ce que tu le maîtrises? Il y a un temps où tu vas tâtonner. Tu ne maîtrises pas. Tu ne maîtrises pas. Et quand on est une nouvelle création, en réalité, c'est Dieu qui nous maîtrise. On ne maîtrise pas. Et l'homme a peur de cet inconnu-là. Il a peur. Il se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Pour faire tel choix, il faudra que je demande d'abord à Dieu. Alors qu'autrefois, il suffisait que je mette ma carte. Les choses marchent. Pour telle situation, il va falloir. Eh ben, cette nouveauté, c'est pour ça que la Bible dit, il devient une nouvelle création. Et quand les choses sont nouvelles, eh ben, on ne maîtrise pas toujours. Ça nécessite un temps d'apprentissage. Et ce temps d'apprentissage-là, c'est la mort. On apprend à mourir à soi-même. Si on s'est converti parce qu'on voulait être heureux, le Seigneur nous dit ce matin, oui. Le véritable bonheur, c'est lui qui le donne. La véritable joie, c'est lui qui la donne. Mais on se convertit pour mourir à nous-mêmes. Nous lisons Marc 8, où le Seigneur explique ça de manière bien explicite. Marc chapitre 8. À partir du verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils, Marc 8, verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Verset 32. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Amen. Voilà ce que dit le Seigneur. Le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc c'est un engagement volontaire. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit. Non. Il dit, celui qui veut, qui a ce désir-là de me suivre, qu'il soit conscient qu'il y a une croix à porter. Et le Seigneur dit quelque part de calculer la dépense. Il dit, quel est cet homme qui va se mettre dans une entreprise de construire une maison et de ne pas vérifier s'il a les capacités d'achever cette maison-là? Il dit, mais c'est un insensé, tout le monde se moquera de lui. Le Seigneur nous appelle à mourir à nous-mêmes. Alors, peut-être que quand on dit ça, les gens ont peur, ils se disent, mais oh là là, non. C'est-à-dire, accepter de renoncer à soi-même. Accepter de renoncer à ce que je pense être correct. Je dis aujourd'hui, c'est Dieu qui a raison. Il y a des gens qui cherchent même à parlementer avec la Bible. On donne un verset, il dit non, 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 ça, c'est pas pour moi. Je discutais avec une personne qui me dit, lorsqu'on parle de femmes soumises, il dit, oh là là là, ça c'est votre culture, ça, africaine. Je dis, ah bah, pourtant, la personne est soi-disant chrétienne, était soi-disant chrétienne. Mais nous voyons à quel niveau. Moi, j'ai dit non, c'est ta culture aussi qui refuse la parole. La culture européenne où la femme est égale, voire même plus que l'homme. Je dis, si nous sommes chrétiens, notre culture, c'est la Bible. Elle dit, non, 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 ça, il ne faut pas abuser. Ça, c'est votre culture africaine, ça. Voilà. Et il y a des gens comme ça. Lorsqu'on donne des versets bibliques, ils refusent. Ils refusent cela. Pour voir la gloire de Dieu, acceptons de perdre notre vie. Dieu a dit à Israël, va dans le pays. Va juste explorer. Mais il n'a pas dit qu'il y avait des géants. Il voulait qu'Israël manifeste la foi, mais aussi qu'Israël accepte, que ce peuple accepte de perdre leur vie. Et ils ne voulaient pas prendre ce risque-là. Ils ont refusé. Et le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix de manière consciente. Et lorsque je lisais les commentaires bibliques par rapport à ce passage, c'est écrit que les Juifs, plus que nous, parce que nous, quand nous lisons, pour nous, c'est parfois, on ne comprend pas, on n'a pas l'image. Mais les Juifs, pour eux, c'était des choses qu'ils vivaient. Les Romains, pour les malfaiteurs, eh ben, ils chargeaient ces personnes-là d'une croix. Donc, la croix, c'était clair. Hein? Jésus, nous l'avons lu, au verset 32, c'est écrit, Jésus leur dit ces choses ouvertement. Pourquoi? Parce que, pour eux, c'était clair que la croix était synonyme de quoi? De la mort. C'était clair pour eux. Donc, ils n'ont pas compris que la croix, c'était, on va souffrir, on aura des bobos, on aura des difficultés. Non! Ils ont bien compris. Voilà pourquoi Pierre, à ce moment-là, poussé par le diable, a refusé cela. Il dit, non, Seigneur. On peut accepter de souffrir, mais jusqu'à mourir, non. Ils étaient conscients, ils ont bien compris le message de Jésus. Ils ont bien compris. Et c'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Si nous avons choisi de le suivre, nous choisissons aussi de perdre notre vie. Nous choisissons aussi d'abandonner nos raisonnements. D'abandonner, il y a des gens qui disent, moi, je pense que, moi, pour moi, selon moi. Ce n'est pas selon moi, ce n'est pas selon nous. C'est que dit la Bible. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui que nous nous convertissons pour mourir. Et une personne qui meurt, c'est une personne qui ne réagit plus. C'est ça mourir. C'est-à-dire que tu as de la force, tu as de la capacité, tu as la capacité de répondre. Mais devant une situation, Dieu te dit tais-toi. C'est ça mourir à soi-même. Tu peux répondre, tu as raison. La situation se présente, on te dit rouge, toi tu sais que c'est vert. Dieu te dit tais-toi, accepte. Parfois c'est devant les gens même. Tout le monde dit oh voilà, voilà, on savait. Mais Dieu te dit accepte. Et quand on accepte cela, comme on a dit tout à l'heure, quand on accepte de mourir à nous-mêmes, Dieu manifeste sa gloire. Cette situation peut paraître comme un géant. À ce moment-là, on se dit, mais est-ce que je vais arriver? Mais si on accepte, comme Jésus dit à Nicodème, il dit, si tu acceptes cela, eh ben, c'est Dieu qui va faire en toi, c'est Dieu qui va agir. Et réalisons que la conversion, c'est un contrat. Romains 6, 4, que nous allons lire quand même. Romains 6, 4. Romains 6, verset 4. Nous avons donc tous été ensevelis par lui, par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. On peut continuer la lecture à la maison, mais c'est ce que l'apôtre Paul explique. Il dit que la conversion, en réalité, c'est un contrat. Et dans ce contrat, il y a quoi? Il y a la mort. Et Jésus dit dans Luc 6, 40, le disciple accompli sera comme son maître. Donc, il va suivre le même chemin. Voilà pourquoi Pierre et les autres qui entendent ça, ils se disent non, Seigneur. Que Dieu te préserve. En quelque sorte, ils disent que Dieu te préserve de cela. En quelque sorte, ils disent aussi pour eux. Puisque si toi, tu dois vivre cette souffrance-là, Seigneur, donc nous aussi, on va la vivre. Une souffrance identique. Alors, que Dieu te préserve de cette souffrance. C'était le plan du diable, bien sûr, mais charnellement aussi. Eh ben, l'homme n'aime pas souffrir. Mais comme on a dit au début, c'est un choix. Dieu a dit, regarde le terrain, la terre que je te donne. La part d'Israël, c'était de quoi? D'accepter le choix de Dieu, d'accepter la volonté de Dieu et de dire, Seigneur, c'est toi qui nous donnes, alors nous acceptons de suivre. C'était ça leur part. Et la même chose, Dieu nous dit aujourd'hui, que la conversion, c'est un contrat. Et dans ce contrat, on accepte de mourir à notre logique. On accepte de mourir à moi-je. Moi, je pense que nous, dans notre famille, nous, dans notre tribu, nous, notre nom, Dieu dit non. On accepte de mourir à tout ça. Mais il dit aussi, quand on accepte cela, comme Christ est ressuscité de mort par la gloire de Dieu, eh ben, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Une nouvelle vie s'ouvre à nous maintenant. Là où la difficulté était, quand la chair souffre, mais puisque c'est devenu notre vie, eh ben, quand on nous parle mal, on ne pense même plus à mal répondre parce que, voilà, on a déjà accepté la nature de Dieu. Quand on nous fait du mal, on ne pense même pas à rendre le mal par le mal puisque, comme David dit, le mal appartient aux méchants. Donc, ce n'est pas de notre nature. Ce n'est plus cela. Quand on médite de faire le mal, on se rappelle, psaume 73, Asaph, il dit, je regarde. Les méchants prospèrent, comme je disais tout à l'heure. Ceux qui se convertissent en voulant être heureux charnellement. Ils regardent, je n'ai pas de travail. Ils regardent, je n'ai pas d'enfant. Ils regardent, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Et il devient malheureux. Mais Asaph, comme il était vraiment converti, il dit, ma chair, j'ai voulu trébucher. Ma chair était tellement touchée, je me suis dit, bon, je ferme les yeux, je veux faire comme eux. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Si je veux parler comme eux, je veux trahir ta race, la race des enfants de Dieu, la race des convertis. C'est cela. Et l'exemple d'Azaph nous montre qu'en réalité, on ne se convertit pas pour être heureux sur la terre. On se convertit pour mourir à nous-mêmes, afin de revêter la nature de Christ. Amen. On se convertit pour mourir à nous-mêmes, afin de manifester la nature de Dieu. Dieu veut s'exprimer par nous. Mais pour qu'il s'exprime, il faut que nous, on meure d'abord. Il faut qu'on meure d'abord. Sinon, il y aura un conflit. Or, Dieu, il est écrit dans Ésaïe 42:8, il dit « Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je ne donne ma gloire à aucun homme, ni mon honneur aux idoles. » Dieu, il dit « Je ne partage pas ma gloire. » Donc, pour que je règne, il faut que celui qui est là meure. C'est cela. Acceptons de mourir afin de voir la gloire de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, mais nous allons prendre l'exemple d'une personne, nous lisons dans Juges. Josué, pardon, au chapitre 2. Josué au chapitre 2. À partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Josué, chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 12. Josué, fils de Nun, fit partie secrètement de Sittim deux espions en leur disant « Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindriez. Verset 6. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. » La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Amen. C'est l'histoire d'une femme. Une femme prostituée qui s'appelle Rahab. Et nous avons fait une étude biblique sur les héros de la foi. Et curieusement, le Seigneur a choisi cette femme comme étant un héros de la foi. Puisque cette femme, l'acte qu'elle a commis, qu'elle a posé ici, c'est un acte de foi. De croire que le Dieu d'Israël, un Dieu qu'elle ne connaît pas, est le véritable Dieu. Non seulement cela, mais donc elle croit cela, elle se convertit en quelque sorte, mais en plus, elle prend le risque d'accueillir des hommes chez elle. Donc un double risque. D'abord, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trahit sa nation. Elle trahit sa famille aussi, bien évidemment. Mais en plus, elle-même, elle peut être tuée. Même si les hommes sont partis pour suivre ces espions, ben, ils pouvaient rentrer et revenir vérifier. Il suffisait que ces hommes rentrent dans la maison de Rahab et voient ces espions. Et ben, ils allaient tuer cette femme-là. Et l'acte qu'elle a posé, d'abord de croire que le Dieu d'Israël est le véritable Dieu, C'est un acte de foi. Et la Bible dit, le Seigneur dit dans Matthieu 5, « Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. » Elle a juste entendu. Elle a juste entendu. Aujourd'hui, nous entendons la parole, mais malheureusement, ce n'est pas assez. Ayant entendu, elle a cru en ce Dieu-là. Et elle pose un acte de foi, un acte de mort aussi. Parce que l'acte qu'elle pose, c'est sa mort assurée. Et qu'est-ce que nous avait été dit pendant cette étude biblique? C'est que Rahab, l'acte qu'elle a posé aussi, on avait vu une chose, c'est que Rahab a accepté de trahir sa famille. Et la conversion, lorsqu'on accepte de mourir, c'est comme une trahison. Je témoignais une fois, je parle souvent avec mon petit frère qui est juste après moi, avec qui nous étions très proches, fusionnels. Et maintenant, 10 ans, les conversations restent, en tout cas, basées sur Dieu. Et un jour, il me dit, mais tu as changé. Il me dit, ah bon, comment ça? Il dit, non, mais autrefois, lorsqu'on parlait, parce qu'on était très moqueurs, lorsqu'il suffisait qu'on se regarde, eh ben, on se met à rire, donc on était très moqueurs, on passait notre vie à cela, à se moquer. Il dit, mais tous ces bons moments-là, on ne les vit plus. Je dis, non, les bons moments, c'est aujourd'hui avec le Seigneur, c'est ça. Il n'y a plus de sujet, mais humainement, lorsque je parle de ça, ce n'est pas avec joie, parce que ça fait quand même souffrir la chair. Une personne que tu aimes, avec qui tu avais des bons rapports, du jour au lendemain, les choses sont finies. Lorsque tu parles à la personne, c'est juste pour redresser. Mais ça fait mal. Parfois, on aimerait juste parler à la personne pour s'encourager. Mais lorsque tu parles, c'est toujours pour redresser. Lorsque la personne t'appelle, c'est toujours pour demander conseil. Au début, ça fait mal. Mais à un moment, on se dit, ah, si la personne appelle pour demander conseil, c'est que la personne s'est discernée là où est le vrai, là où il y a le faux. Il sait que lorsqu'il faut dire des bêtises, il sait qui il va appeler. Lorsqu'il faut parler de choses sérieuses, il sait aussi qui il va appeler. Mais pour en arriver là, il y a une mort qu'il faut accepter. Et Rahab a trahi sa famille. Imaginez que sa famille apprenne que votre fille, c'est elle qui a reçu les espions. Mettons-nous dans le contexte, parce que ce sont des contextes d'État. Ou un peu comme aux États-Unis, eh ben, tout citoyen est comme un patriote. C'est une fierté d'être américain. Et lorsque tu trahis ton pays, eh ben, c'est une honte pour toi, mais c'est une honte pour toute ta famille aussi. Et c'était le cas. Elle a accepté de trahir sa famille. Elle a accepté de trahir la nature humaine. Elle a trahi cela. Et le mot avait été bien choisi en disant trahison, parce que c'est ça le mot, c'est une trahison. C'est une trahison. Tu arrives quelque part, cérémonie de famille, on te dit, allez, il faut entrer dans l'église, bâtiment catholique. Tu dis non, on va te dire, oh, c'est pas possible. Mais c'est pour notre papa, mais c'est pour notre maman. Mais c'est le mariage d'un tel. Mais on va te ramener à la raison pour te dire, mais comment tu peux nous faire? Voilà, ils vont sortir ces phrases. Mais comment tu peux nous faire ça? Mais quand tu restes ferme sur ta position, tu dis, non, je ne peux pas. Parce que j'ai choisi le Seigneur. C'est une trahison. C'est une trahison. La nature humaine va regarder à gauche, à droite. Le pasteur n'est pas là, le frère n'est pas là. Je suis loin. Allez, bon, j'y vais. Je ferme les yeux. Mais celui qui est converti, la Bible dit qu'on ne peut pas se mettre avec des infidèles sous un joug étranger. Il est conscient que entrer dans ces bâtiments-là, c'est se mettre sous le joug d'un faux Dieu. Eh bien, il refuse. Mais comment les autres vont percevoir? Ils vont dire, mais non, mais tu nous as déçus. Là, il y a des phrases comme ça qui vont sortir. Hein, pour donc, tout ce que les gens ont dans le cœur, là, ils vont tous sortir ce jour-là. Ils vont dire, ah oui, de toutes les façons, on te connaissait même. On savait. Mais vous savez même pourquoi vous me proposez alors? Mais tout ça pour nous dire que Rahab a affronté tout cela. Elle a trahi la nature humaine. Elle a trahi son pays pour adhérer à un autre pays. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Mais l'histoire de Rahab ne s'arrête pas là. L'histoire de Rahab nous montre, lorsque nous lisons Josué au chapitre 6, verset 25, Josué 6, verset 25. Donc à ce moment-là, Israël arrive à Jéricho. Il est écrit, Josué 6, 25, Josué laissa en vie la vie arabe, la prostituée, à la maison de son père, à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Amen. Voilà l'acte que Rahab a posé ce jour-là. Peut-être que les gens, quand ils ont appris ça, ils sont tombés de haut. Mais cet acte-là, c'était un acte salutaire pour toute la famille. Lorsqu'on accepte de mourir, comme on a dit le thème, c'est « Acceptons de mourir à nous-mêmes afin de voir la gloire de Dieu ». C'est ça. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les canaux par lesquels Dieu va passer. Mais pour que Dieu passe, il faut que nous puissions accepter de renoncer. Il faut que nous puissions renoncer à nous-mêmes. Il faut que nous puissions accepter même de perdre sur terre les avantages que nous pouvons voir. Il faut que nous puissions en arriver à trahir. C'est cela la conversion. Il y a des gens qui vont chercher à être bien avec tout le monde. Il y a des gens qui vont chercher à mettre de l'eau dans leur vin, comme on dit en français, qui vont chercher toujours à arrondir les angles. Mais un jour, puisque le Seigneur est bon, il va nous amener à porter notre croix. Et la croix, comme on a dit, c'est l'instrument de la mort. Lorsque Jésus a parlé aux disciples, ils ont tout de suite compris. Ils se sont dit, ah Seigneur, tu nous as dit de te suivre. Regarde maintenant les problèmes que tu nous crées. Ça n'a pas été facile pour les disciples. Ça n'a pas été facile tous les jours. Je crois que c'est dans Luc 22, 22 où Jésus dit, vous qui avez accepté de souffrir avec moi, Dieu dispose en votre faveur le royaume. Mais il dit bien, vous avez accepté de souffrir avec moi. Puisque tous les jours, Jésus prêche, il dit quelque chose. Ah, Seigneur, mais il faut me manger, il faut boire de ma chair. De mon sang, pardon, il faut manger ma chair. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ceux qui étaient là ont dit, ah voilà, nous on venait, on a entendu que bon, cet homme parle bien, mais là, non. Là, c'est trop. Là, il attaque même la loi de Moïse. Qui dit qu'on ne doit pas avoir de contact avec le sang. Parce que dans le sang, il y a la vie. Il dit, non, 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 là. Bien sûr, les paroles de Jésus étaient esprit. Mais il a quand même dit. Pierre, quand il a écouté cette parole, il ne s'est pas dit, oui, cette parole est esprit. Donc, il faut comprendre. Ah, non, 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 non. Ça a fait souffrir la chair. Mais Pierre aimait le Seigneur. Il a dit, Seigneur, même si nous n'avons pas tout compris, mais nous savons que les paroles que tu dis là, c'est dans ces paroles qu'il y a la vie. C'était une mort. Jésus enfonce le clou en disant, mais partez aussi. En quelque sorte, est-ce que vous voulez toujours me suivre? Est-ce que vous voulez toujours venir avec moi? Il dit, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous acceptons d'aller avec toi jusqu'au bout. C'est ça. Et lorsqu'on accepte cela, le Seigneur va manifester sa gloire. La gloire de Dieu, ce n'est pas comme on nous a dit autrefois, on voit des gens tomber, caca. Non, ce n'est pas ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de voir, comme je témoignais tout à l'heure, de voir mon petit frère qui m'appelle pour demander conseil. Je dis, ah, même si il est quelqu'un d'un peu foufou, mais il y a des moments de lucidité. Quand la parole revient comme ça, bon, il appelle pour dire, bon, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, c'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de voir les âmes touchées, converties. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de quoi? C'est de voir un homme qui était mauvais, qui frappait les gens, qui était respecté parce qu'on sait que cet homme-là, on ne joue pas avec. Mais de voir un jour, il se convertit. Quelqu'un qui, au volant de la voiture, lui fait même ça, il reste à la calme, stoïque, sans bouger. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Mais pour accepter ça, il y a un travail de mort à accepter. Il y a un travail, comme on avait dit dans l'étude biblique, de trahison de la race humaine. La race humaine va te dire, non, là, trop c'est trop. Trop c'est trop. Montre de quel bois tu te chauffes maintenant. C'est ça la nature humaine. Mais l'Esprit de Dieu va te dire, non, accepte, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Quoi? Tu es ma femme et tu me parles dans notre famille, les femmes. Le Seigneur te dit oui, accepte. Avale d'abord, bois de l'eau, va dehors, que ça passe. Et puis s'il faut discuter après, mais ne discute pas pour montrer que c'est toi le chef. Non, c'est toi le chef. Non, accepte. C'est ça la gloire de Dieu. Et lorsqu'on fait des choses ainsi, Dieu va agir. Mais lorsqu'on veut faire tout seul, on va faire notre propre justice et elle sera inefficace. Et Dieu ne pourra pas agir. Mais quand on laisse Dieu faire, Dieu se manifeste. Et l'histoire de cette femme, qui est tellement belle, on voit que toute sa famille a été sauvée par elle. Mais il a fallu qu'elle puisse mourir. C'est pour nous dire que beaucoup de situations que nous rencontrons, comme c'est écrit dans Hébreux 12, je crois 14, de chercher la paix. Et il y a beaucoup de situations que nous rencontrons où chacun veut prouver qu'il a raison. Mais lorsqu'il y en a un qui accepte de mourir, c'est là que, qui accepte de se taire, même s'il a raison, même s'il a tort, mais qu'il accepte la construction, c'est là que la situation va se dénouer. Regardons dans nos vies autour de nous, vérifions, nous allons voir que c'est vrai. Mais quand l'autre monte, là ce sont des enchères. Hein. Et c'est celui qui va blesser le plus, qui va sortir la parole qu'il ne fallait pas. On sort la parole, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Or, le Seigneur nous appelle à mourir à nous-mêmes. Même si ça brûle dans la bouche, tu vas, tu bois de l'eau, voilà, ça passe. Amen. C'est ça, accepter de mourir. C'est à ça qu'on se convertit. Donc, si nous sommes là ce matin, le Seigneur nous dit, c'est ça être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas venir à l'église. Ce n'est pas être là propre le dimanche, chrétien du dimanche. J'ai fait mon devoir et puis c'est tout. Je sors d'ici, c'est fini. Non, c'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est porter sa croix. Chrétien, ça veut dire quoi? Comme Christ. Or, Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie pour nous. Voilà pourquoi Pierre, mais le diable aussi s'est opposé. Il s'est dit non, Seigneur. Donc la route que tu nous montres là, nous aussi on va la suivre. C'est ça qu'ils ont voulu dire. Ils ont dit, non, mais Seigneur, c'est que toi tu vis, nous aussi on doit suivre ça. Non. C'est difficile. Oui, c'est difficile à la chair. Mais nous, notre part, c'est de faire le choix, de dire Seigneur, j'accepte d'être brisé. Seigneur, j'accepte. Seigneur, j'accepte de trahir. Même ma famille, pour toi, j'accepte de trahir le nom de famille à cause de toi. C'est cela. Il y a des gens qui sont tellement attachés, comme on a dit, le fait qu'elles soient de Jéricho fortifiées, c'était leur gloire, leur richesse. Et le fait qu'elles renoncent à ça, c'était une trahison. Et il y a des gens qui sont attachés, ils se disent chrétiens, mais attaché à la culture du pays d'origine. Quand on touche au pays, c'est comme si on avait touché à sa mère. Le Seigneur nous dit, acceptons de mourir. Notre race à nous, notre identité, c'est le Seigneur. Et c'est ça la conversion. Rahab a compris que sa vie sur la terre, c'est d'appartenir au Dieu d'Israël. Comme un autre exemple, c'est l'exemple de qui? De Ruth. Ruth a compris que la véritable vie, c'est d'appartenir au Dieu d'Israël, au Dieu de Naomi. Voilà, elle a compris le sens de la vie. Elle s'est dit non, je viens de mon pays, mais ton Dieu sera mon Dieu. Elle a compris cela. Acceptons d'être dégagés, d'être libérés du poids de nos familles. Parfois, ce sont des esprits qui tiennent les gens. Parfois, ce sont des esprits. Et nous, en tant que chrétiens, non. Je ne dis pas qu'on doit renier nos pays. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. On doit aimer nos pays. Mais l'amour de nos pays doit nous amener à prier pour eux. Non pas à y être attachés de manière charnelle. On aime notre pays, on prie. Pour qu'il y ait des conversions, on prie, on entend des informations. Ben, toutes ces informations nous servent à prier pour le pays. C'est ça. Lorsque, une parenthèse, la France a perdu en finale, moi j'étais triste. Mais après je me suis dit, Seigneur, finalement, même si je suis français, je comprends que soutenir une patrie, un pays, ben, ça amène toujours à la déception. Je comprends, Seigneur, la véritable joie, c'est de ta part. Tu dis, au moins ça, personne ne pourra me l'enlever. Amen. Personne ne pourra me l'enlever parce que sur la terre, on sera trahi. On sera trahi. On sera trahi. Je voyais le parcours, là, je dis, non, là, c'est obligé. Comme on a battu l'Allemagne, donc c'est obligé. On arrive, boum. C'est un brisement. Je dis, ah oui, Seigneur, je comprends que je suis chrétien. Je ne suis pas français, je suis chrétien. Voilà. C'est ça mon identité. C'est cela. Et celui qui a compris ça, il est joyeux, il est libre. J'ai donné le témoignage la dernière fois de cet homme Marc Berkowitz, qu'on appelle le fils de Sam. Et son témoignage m'a beaucoup touché lorsqu'il explique qu'un journaliste vient dans sa cellule pour lui dire « Mais quelle est cette force qui vous maintient comme ça ?» Il explique qu'il est né juif, c'est un juif qui a été adopté et il explique tout ce qu'il a vécu, le fait qu'il ait perdu sa mère, tôt, et il a nourri beaucoup de rancœur jusqu'à commettre des crimes. Il a tué 6 personnes et aux États-Unis, les peines sont superposées, sont accumulées. Et donc, de ces 6 personnes-là, il a eu 66 ans de prison. Donc, autant dire la prison à vie, quoi. Voilà. Mais cet homme parle. Il dit aux journalistes, il dit, je sais que vous n'allez pas me croire, mais tous les matins quand je me réveillais, j'avais la culpabilité. J'avais la colère en moi. J'avais la haine. J'avais des pensées de suicide. J'étais triste. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur, il a mis la paix dans mon cœur. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'ai eu la liberté véritable. Et aujourd'hui, je peux parler de vous. Je peux parler, pardon, de Jésus. Je peux vous parler. Je peux parler aux co-détenus. Maintenant, il dit, la prison qui est là, en réalité, ce n'est plus une prison pour moi parce que moi, je suis libre et ce que j'attends, c'est le retour de mon Seigneur. Voilà cette joie. Il a compris qu'en réalité, nous sommes de passage sur la terre. Voilà ce qu'il a compris. Et quand j'écoute ce témoignage, ça me touche. Il dit effectivement, Seigneur, aide-moi à comprendre les choses comme lui. Alors, une personne qui a compris les choses comme ça, qui s'est convertie dans ces conditions-là, est-ce qu'il va venir se plaindre pour lui dire, tiens, le surveillant m'a mal parlé. Tiens, ma femme m'a encore manqué de respect. Tiens, le pasteur ne m'a pas dit bonjour. Est-ce qu'il va il n'a pas le temps à cela. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Et il ajoute, hein, il prend Éphésiens 3:20 qui dit que Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons espérer. Même imaginer, Dieu peut faire. Et comment il explique ça? C'est ça que j'ai aimé. Parce que souvent, quand on utilise ce verset, on dit, oh là là, on aura la gloire. J'aurai le permis, Dieu va me donner une voiture. J'aurai ici, Dieu va me donner un ministère. Souvent, on voit les choses. Et moi aussi, je vois les choses comme ça. Mais lui, il explique quoi? Il dit, Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons espérer. Il dit, moi qui étais mauvais, Dieu m'a racheté, il m'a sauvé. Mais non seulement il m'a sauvé, mais il a fait de moi un prédicateur de l'évangile. Il dit, c'est quelque chose que je n'avais même pas imaginé, espéré, mais Dieu l'a fait. Voilà comment un homme qui aime le Seigneur comprend la parole de Dieu. Souvent, nous comprenons ça en disant, waouh, la gloire! Non, lui il dit non, moi j'étais perdu, mais Dieu m'a pris moi qui étais perdu. Il a fait de moi son serviteur. Moi qui ai tué des gens, qui ai détruit des familles, maintenant c'est moi qui répare les brèches. C'est moi qui encourage ceux qui sont dans la déception. C'est moi qui encourage ceux qui ont le cœur brisé. C'est moi qui encourage ces gens-là. Et il dit, Dieu en réalité fait au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est ça. Alors un homme qui est converti comme ça, qui comprend que sa condition n'est pas liée à son état physique, mais à sa relation avec Dieu, c'est celui qui a compris. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, même si moi je suis lié, l'évangile n'est pas lié. Dieu continue à agir. Il dit, je suis dans les liens. Il dit, j'aurais voulu même partir de ce monde. Mais si je suis là, c'est parce que Dieu me laisse pour une mission. Mais encore un peu de temps, je quitterai cette tente dans laquelle j'habite pour retrouver mon Seigneur. Voilà. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Or, Paul, ce n'était pas n'importe qui lorsque nous lisons Philippiens 3. Il dit, s'il y a un sujet de me glorifier, j'ai beaucoup de sujets. Mais il dit, tout ce qui était ma fierté, on me connaissait comme étant Paul, le seul autrefois. Pharisien, fils de pharisien, persécuteur des chrétiens, tout ça c'était dans son CV. Il dit, mais lorsque j'ai rencontré Jésus, ben, tout ça c'est devenu rien du tout. Mon objectif maintenant, c'est de vivre pour le Seigneur. C'est ça son objectif. Et le Seigneur lui dit aujourd'hui, nous nous convertissons pour mourir. Acceptons de mourir à nous-mêmes afin de voir la gloire de Dieu. Rahab a accepté de trahir sa famille, de trahir son pays, de trahir même la race humaine. Elle a accepté cela. Beaucoup diraient aujourd'hui traître. Traître. Elle a accepté d'être traître pour la bonne cause. Et ceux même peut-être qu'il avait accusé ou insulté, eux-mêmes ils ont été sauvés aussi. Toute sa famille, c'est écrit, toute sa famille a été sauvée. C'est cela. Et nous finissons par un exemple que j'aime beaucoup dans Genèse. Genèse 26. C'est l'histoire d'Isaac. Genèse 26. On peut commencer à partir du verset 12. Isaac sema dans ce pays et y recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux, de menu bétail, des troupeaux en gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Verset 18, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Essec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne cherchera pas querelle. Et il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et lui dit, je suis le Dieu d'Abraham. Ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimélec vint de Guérar auprès de lui, avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons, qu'il y ait un serment entre nous et entre toi, entre nous et toi. Et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous ne t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait, et lui dire, « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il appela Sheba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et cette histoire, c'est, comme nous l'avons lu, Isaac a récupéré les puits de son père. Et Abimélec vient pour lui dire, « Allez, sors, puisque tu es plus puissant que nous, tu es plus fort que nous, laisse. » Donc ils ont rempli, ils ont comblé tous ces puits qu'ils avaient creusés et ils ont dû départir. Et quelle souffrance pour un homme. Isaac n'était pas tout seul, il avait une famille, il avait des serviteurs, il avait du bétail. Il se retrouve à un autre endroit, il creuse. Il n'y avait pas de marteau-piqueur comme aujourd'hui. Il creuse. Voilà que ces gens viennent encore pour lui dire, allez quitter ici. Une seconde fois, il part, il recommence. Et dans tout ça, Isaac n'a pas ouvert la bouche. Isaac ne s'est pas plaint. Isaac n'a pas cherché à se défendre. Pourtant, Isaac avait aussi une armée. Et là, il aurait pu se dire, bon, allez, sauf qui peut. Là, c'est fini. Advienne que pourra, on attaque. Parce que là, trop, c'est trop. Mettons-nous dans le contexte. C'est des kilomètres et des kilomètres. Avec du bétail, avec tout ça. Se déplacer, creuser. Quelle souffrance. Et une fois que tu as l'eau, les gens viennent et disent, allez, partez. Et Isaac a accepté cela. Il a accepté. Et nous avons lu qu'ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu se révèle à lui pour lui dire, Isaac, je suis avec toi comme j'étais avec ton père Abraham. Il dit, je te bénirai. Voilà. Lorsqu'on accepte de mourir à nous-mêmes, Dieu se manifeste. Mais non seulement cela, puisqu'il aurait pu se contenter de cela, dire, ben, Seigneur, merci. Mais les méchants même viennent pour dire à Isaac, Isaac, nous reconnaissons que Dieu est avec toi. Amen. N'est-ce pas la gloire de Dieu? C'est ça la gloire de Dieu. Quelqu'un qui te veut du mal, qui vient lui-même pour te dire, je reconnais qu'avec un tel, on a parlé mal de toi, mais finalement, j'ai analysé, j'ai écouté, j'ai étudié, j'ai vérifié, j'ai même espionné, mais je vois que tu n'es pas ce qu'on dit. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Isaac n'a pas cherché à se défendre tout seul parce que Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. Il a cherché la paix. Il a cherché le réconfort auprès de Dieu. Voilà, c'est ce que nous devons faire. Lorsqu'on est devant une situation qui nous dépasse, remettons-nous à Dieu, disons, Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Voilà. Et dans cette attitude-là, Dieu va nous répondre. Soit il va nous dire, accepte, ou soit il va nous dire, que faire. Mais quand on accepte la volonté de Dieu, quand on accepte que Dieu s'impose sur nous, Dieu va se manifester. Je me rappelle lorsque on a chanté à l'hôpital psychiatrique de Saint-Étienne, c'est ce passage-là qui m'est venu. Pourtant, ça n'a apparemment pas de rapport. Ce concert, on l'attend depuis, ça fait pour ceux qui sont là peut-être depuis un moment, on prie pour ça peut-être depuis 10-15 ans, on prie pour ça, Seigneur, ouvre les portes pour qu'on prêche. Pour que nous puissions chanter dans cet endroit-là. Et on a même prié, même pour le temps. Je priais, je disais, Seigneur, ils annoncent la pluie, l'animatrice veut qu'on chante dehors. Seigneur, ça fait longtemps qu'on attend, mais que ça soit parfait. Quoi. Et c'est ça. Je ne dis pas qu'on ne doit pas, on doit pas avoir de souhaits. Oui, on exprime ça au Seigneur. On dit, Seigneur, on a tellement attendu ça. Alors, Seigneur, que ça soit beau. Mais la Bible dit, l'homme propose, Dieu dispose. C'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. Arrivé là, on installe le matériel. Boah! Deuxième chant, une forte pluie. Et en débranchant le synthé, j'avais tout débranché, déjà déstabilisé. Je débranche et je n'ai pas vu qu'il y avait un fil qui était bloqué. Je tire, le fil se casse encore. Je dis, Seigneur, ah! Vraiment, on a attendu ce temps. Voilà que ce temps arrive, voilà. Donc, c'était comme une défaite. Et il y a une sœur qui vient me voir encore pour me dire, mais ancien, est-ce que c'est un manque de foi? Mais pourquoi on n'a pas continué? On a prié, il fallait que les païens voient que nous... Et à ce moment-là, je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas créer des miracles. Nous, ce qu'on fait, on dit, Seigneur, nous, on a voulu que le temps soit bon. Maintenant, il a plu. Eh bien, on se soumet. Alors, une situation qui paraît comme une défaite, pour nous, n'est pas une défaite pour Dieu. Mais pour arriver à accepter ça, il faut mourir. Parce qu'humainement, on se dit, non, j'ai raté, j'ai échoué. C'est fini. Moi, je me suis dit, non. Jésus est mort à la croix. Ça a été une défaite pour les disciples qui étaient là. Pierre a renié le Seigneur et s'est dit, non, là, c'est trop. Or, dans cette défaite-là, c'est là qu'il y avait la victoire. Et c'est pour nous dire qu'il y a des situations parfois, comme ce jour-là, la sœur est venue, elle était dépitée, en me disant, mais c'est comme un manque de foi, là, le fait qu'on arrête. Je dis, non. C'est pas un manque de foi. Non, non. On obéit à Dieu. Voilà. Là, il est tellement plu. On a arrêté. On s'est dit, on fait une pause, on va reprendre. Mais c'est comme une défaite. Je dis, oui, on accepte. Puisque si on pouvait créer des miracles, on aurait fait un miracle. Hein. On l'aurait fait. Mais comme on ne peut pas faire de miracles, eh bien, on accepte. C'est la volonté de Dieu. Mais à ce moment-là, ça passe comme une défaite. Alors à la fin du concert, je réfléchissais, je me disais, mais bon, j'ai cassé le synthé en plus, voilà les résultats des courses, il y a eu la pluie, on s'est mouillé, tout ça. Mais il y a une pensée qui me vient en disant, mais finalement, est-ce que l'objectif a été atteint ou pas? De chanter, d'annoncer que mon cher, si tu as des soucis, Jésus est la solution. Est-ce que l'objectif a été atteint ou pas? Oui, l'objectif a été atteint. Voilà, c'est ça. Mais pour arriver à cela, il faut accepter de mourir. Sinon, on va rester en disant, oh non, non, on a loupé, on a raté. Non, non. Ce que nous pensons être une défaite, pour Dieu, c'est une victoire. Maintenant, peu importe les conditions, lorsque Dieu se révèle à Joseph, il lui dit, voilà, ta famille va se prosterner devant toi. Joseph a vu ça, mais Joseph ne savait pas dans quelles conditions cela allait se faire. Mais est-ce que ça a fini par s'accomplir ou pas? Oui. Même si il y a eu de la casse entre-temps, mais Joseph a gardé la foi en Dieu. Il a même voulu dire, plaider complète pour lui. Allez, dites que je suis là, ne m'oubliez pas. Les gens sont partis, ils ont même oublié Joseph. Mais finalement, est-ce que la parole de Dieu s'est accomplie ou pas? Oui, la parole de Dieu s'est accomplie. Et Joseph a compris ça. Il a dit à ses frères, ne soyez pas dans la peur. Le mal que vous aviez médité autrefois, Dieu l'a pris et il l'a transformé en bien. Sa volonté s'est accomplie. Finalement, Joseph a accepté. Son sort à lui importait peu devant la joie qu'il procura à ses frères de leur donner la nourriture. Il a compris cela. C'est ça, lorsqu'on accepte de mourir à nous-mêmes, il y aura des situations que nous ne maîtrisons pas, parfois qui vont charnellement, vont peser. On dit, mais Seigneur, pourquoi? Mais finalement, on se dit, Seigneur, non pas moi, mais ta volonté. Amen. C'est cela. Quand on accepte que Dieu fasse, Dieu finit par faire. Il s'est révélé à Isaac. Non seulement cela, les gens sont venus pour dire à Isaac, aujourd'hui, comme nous avons vu que Dieu est avec toi, tu es béni. Donc voilà les paroles que ces gens-là sortent. Ils disent, Dieu t'a béni. Ils disent, aujourd'hui, faisons un serment. Et c'est ce qu'on peut comprendre aussi pour nous aujourd'hui, par notre attitude, par notre comportement, par notre persévérance dans la paix, dans la joie, dans l'amour à nous-mêmes, dans le fait de nous taire. Dieu va toucher les personnes qui vont aussi faire alliance avec Dieu. Ils se diront, oh, il y a des chrétiens qui existent. Effectivement, ça existe, des véritables chrétiens. Des véritables chrétiens existent. Mais pour arriver à cela, Isaac a dû accepter. Il est écrit de Jésus dans Ésaïe 53:10 qu'il n'a pas ouvert la bouche. On l'a mené comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. On a maltraité, mais dans tout ça, il n'a pas ouvert la bouche. Et il est écrit dans le verset 10 qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. C'est ça. Alors si nous sommes là ce matin, Dieu nous dit que nous ne sommes pas tombés d'adresse. On se convertit pour vivre la gloire de Dieu. Et pour vivre cette gloire de Dieu, il faut accepter de mourir. Il faut accepter de renoncer à soi-même. Il faut accepter de laisser Dieu faire. Parfois, on est carré. On veut que les choses soient comme ça, le canapé comme ça, la chaise comme ça. Dieu va nous briser par rapport à ça. Amen. Dieu va nous briser. Maintenant, c'est à nous d'accepter. De dire, Seigneur, bon, là, j'essaie de résister, mais je comprends que je dois céder. Seigneur, je comprends que je dois accepter. Même si moi, j'ai ma façon de voir les choses et les autres ont leur façon de voir les choses, maintenant, je vais mutualiser avec ce que moi j'ai. Et avec ce que les autres pensent, on va tous se mettre d'accord. Voilà. Je ne veux pas chercher, c'est pas tout ou rien. Soit c'est moi, ou alors je quitte. Non. Alors une personne qui a compris qu'il se convertit pour mourir à lui-même, comme je disais tout à l'heure, il ne va plus chercher à ce que les autres le rendent heureux. Il ne va plus chercher cela. Il ne va plus chercher à ce que tel a dit quoi sur moi, tel a dit. Il n'a même plus ce temps-là, bien-aimé. Il n'a plus ce temps-là. Il n'a plus ce temps-là. Il n'a plus ce temps. Puisqu'il a compris qu'il est mort. Et l'apôtre Paul dit que je sers de libation. La libation, c'est la cérémonie qu'on fait lorsque le sacrifice est accompli. Tout est fait. On clôture. Il dit, voilà, j'ai travaillé. Je fais ce que j'avais à faire. Dieu m'a utilisé. Maintenant, voilà. J'attends plus que le couronnement. C'est fini. Ma vie a servi à cela. Acte 20, 24. Je ne fais aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Mon objectif, c'est de faire la volonté de Dieu tous les jours. C'est ça. C'est à ça que Dieu nous appelle. Méditons cela. Il est écrit dans Philippiens 2 que Jésus-Christ, à partir du verset 5, qui lui-même est Dieu, et est venu sur la terre en tant qu'homme, 100% homme, il a accepté cette condition-là, mais il a renoncé à ce qu'il était. Il a vécu sur la terre, on l'a insulté, on l'a frappé, on s'est moqué de lui. Mais il est écrit, verset 10, verset 11, que Dieu l'a mis en gloire, de telle sorte que toute langue, tout genou, pardon, fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est cela. Lorsqu'on accepte de mourir à soi, et c'est ça la conversion, on accepte de mourir à soi et on laisse Dieu s'exprimer, Dieu va manifester sa gloire. Les gens même qui étaient méchants, mauvais, il est écrit que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même les cœurs de ses ennemis. Voilà ce qui est écrit. Voilà ce qui est écrit. Donc notre problème à nous, c'est que Dieu nous approuve. Mais comment Dieu veut nous approuver? En acceptant de mourir, comme Isaac. Si Isaac avait insulté ces gens-là, est-ce que Dieu allait venir lui dire, Isaac, je suis avec toi? Non, Dieu n'est pas dans ça. Aujourd'hui, on voit des gens qui maudissent même les gens, ils pensent être avec Dieu. Non, Dieu n'est pas dans ça. Si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur, même le cœur de ses ennemis. Ça, c'est la part de Dieu. Maintenant, notre part à nous, est-ce que Dieu m'approuve ou pas? Ça veut dire quoi? Est-ce que je suis en accord avec Dieu? Est-ce que quand Dieu me voit avec mon mari, avec mes enfants, avec ma femme, est-ce que Dieu est content de moi? Si ce n'est pas le cas, ah, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mal fait. Pardonne-moi parce que j'ai mal répondu à ma femme, à mon mari. Seigneur, pardonne-moi. Et dans cette attitude-là, Dieu va disposer le cœur de l'autre qui va venir pour dire, oui, effectivement, j'ai mal fait. Effectivement, j'ai mal fait. C'est cela. Que le Seigneur nous aide à accepter cela, à comprendre qu'on se convertit non seulement pour être heureux, ou même pas pour être heureux, on se convertit pour s'offrir à Dieu. Et dans cette offrande-là à Dieu, c'est là qu'il y a la joie, c'est là qu'il y a la paix, c'est là qu'il y a la vie, c'est là qu'il y a la victoire, c'est là que même apparemment on est dans la défaite, en réalité avec Dieu, on est dans la victoire. C'est là, dans cette mort-là. Prions que Dieu nous aide au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui nous a repris aujourd'hui. Moi, le premier, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que aujourd'hui, tu nous rappelles, Seigneur, à notre engagement, Seigneur, avec toi. Peut-être que nous nous sommes convertis parce que nous voulions nous sauver, nous sortir d'une affaire, d'un problème qui nous dérangeait. Cela n'est pas mauvais, Seigneur. Mais ce matin, nous comprenons, Seigneur, à l'exemple de tous ceux qui nous ont précédés, que nous nous convertissons pour mourir, Seigneur, à nous-mêmes. Nous nous convertissons, Seigneur, pour t'appartenir totalement. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à accepter ta parole. Notre part à nous, c'est d'accepter de mourir, Seigneur. Notre part à nous, c'est d'accepter, Seigneur, de passer même, Seigneur, pour des peureux, Seigneur, devant les humains. Mais c'est dans cela, Seigneur, que tu te glorifies. Seigneur, merci pour ta parole. Que cette parole, Seigneur, puisse agir en nous, Seigneur. Que chacun, Seigneur, puisse méditer cette parole et la mettre en pratique, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à accepter, comme tu l'as dit, que celui qui veut te suivre, qui porte sa croix chaque jour. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à accepter cela. À porter l'instrument de notre mort chaque jour, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides à faire face, Seigneur, à tous ces géants qui peuvent se manifester, Seigneur. Que nous ne fassions pas comme le peuple d'Israël qui a voulu préserver sa vie, Seigneur. Quitte à ne pas atteindre l'objectif qui était la terre promise, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides à accepter de mourir à nous-mêmes. Merci pour ta parole. J'entends ta douce voix, Jésus, Je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta parole. Merci. Parce que, Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides à accepter, c'est vrai, cette voie, Seigneur. Parce que c'est vrai, Seigneur, tu nous donnes la résurrection, la victoire, Seigneur, lorsque nous acceptons, Seigneur, de mourir à nous-mêmes. Seigneur, aide-nous, que ton esprit nous parle, Seigneur. Merci d'agir, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu accomplis, Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié, dans le nom de Jésus. Amen.